Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc tout le monde a trouvé le psaume 31, verset 16, qui nous dit, juste la première partie du verset, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées au pluriel. Nous avons une destinée. Nous croyons que nous avons une destinée. Il y a des gens qui croient qu'il n'y a pas de destinée. Je ne parle pas d'être prédestiné. C'est-à-dire comme s'il y avait quelque chose qui était écrit à l'avance. Vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, ça a été écrit. Ça sera comme ça. Nous ne croyons pas à cela. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre bien souvent que bien il y a des situations où même un prophète a annoncé des choses. Mais il y avait une condition. Cela va se réaliser si. Donc il y a une condition, on peut encore choisir de faire ceci ou de faire cela, de changer. Le prophète Jonas, lui, il a prophétisé, il n'a pas mis de si. Il a dit Ninive sera détruite. Il n'a pas dit attention, Ninive sera détruite, à moins que vous ne vous repentiez. Donc détournez-vous de vos voies, et alors elle ne sera pas détruite. Non, il avait dit elle sera détruite dans 40 jours, terminé. Et les gens, pourtant, ils ont saisi ça, ils ont dit non, on veut pas ça. Ils se sont repentis, ils ont changé, et puis Dieu a épargné la ville. Donc il y a beaucoup de choses au conditionnel, et ça dépend de notre attitude, de nos choix. Et donc nous ne croyons pas à la destinée dans ce sens, que quelque chose soit écrit, je ne peux rien y changer. Mais nous croyons à la destinée comme quelque chose qui est en devant nous, qui est en vue, quelque chose de bon, comme des projets, des plans. D'accord ? Vous croyez à ça ? Vous ferez bien d'y croire, parce que Dieu l'a souvent dit dans sa parole. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais des plans. J'ai fait des plans. Il a fait un plan, par exemple le plan du salut. Hein, on parle souvent de ça, expression, le plan du salut. Il a fait un plan, même avant la chute de l'homme et de la femme. Avant, il avait déjà un plan de salut. Et maintenant, il nous dit ici, mes destinées sont dans ta main. Donc nous sommes destinés à plusieurs choses, puisque c'est au pluriel, plusieurs choses. Le Seigneur a mis devant nous beaucoup de choses, on va dire seulement une destinée, plusieurs choses. Et parmi ces choses, nous sommes en train de voir un aspect particulier. Nous sommes destinés à élever des champions pour Dieu. Ça veut dire que c'est un projet que Dieu a pour nous. C'est pas juste, par exemple, j'ai des enfants, ils vont grandir et puis on verra bien ce qui va en advenir. D'accord ? Ça serait le hasard. On verra bien ce qui va en sortir. Comme on a un chapeau, on met les trucs dedans et puis on tire un papier et puis on verra bien, gagné, perdu. Non. Nous voulons au contraire croire que Dieu a un projet aussi pour nous. Et quand Dieu a une destinée pour nous, c'est pas juste un truc, oh, c'est pas mal comme idée. Non. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose où nous devrions prendre soin d'y appliquer notre attention et de voir qu'est-ce que je peux faire pour que ça se réalise. Parce que quand Dieu a un projet pour nous, c'est toujours quelque chose qui est bon. Quand nous, parents, nous avons des projets pour nos enfants, c'est pas toujours bon. Parce que nous ne sommes pas comme Dieu. Nous ne savons pas tout, nous ne sommes pas parfaits. Et il se peut que les projets que nous avons pour nos enfants, ça puisse être nos propres projets que nous n'avons pas pu réaliser et que nous aimerions au travers d'eux vivre des choses. Mais ça, c'est pas possible. Vous réalisez ça ? Combien de gens, par exemple, je ne sais pas, un commerce ou une entreprise, père et fils, on voit souvent, mais peut-être le fils n'avait jamais envie de faire le métier que son père avait fait. Mais beaucoup de gens étaient malheureux pendant toute leur vie parce qu'on les a poussés dans un chemin qui était le chemin qui leur semblait normal. C'était comme ça qu'on avait toujours fait, de père en fils. Donc nous pouvons, en tant qu'êtres humains, nous tromper dans les décisions que nous prenons. Mais combien d'entre vous savez, Dieu, lui, ne se trompe pas. Quand il dit, j'ai préparé quelque chose pour toi, j'ai une destinée pour toi, il n'y a pas d'erreur. C'est que c'est le meilleur pour nous. Alors nous ferions bien de décider une fois pour toutes que Dieu est plus intelligent que nous. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois que Dieu nous dit quelque chose dans sa parole et que nous trouvons une objection, nous pensons que nous savons mieux que lui. d'extraordinaire d'en arriver là, de réaliser combien de fois nous avons pensé que nous savions mieux que Dieu ce qui était bon pour nous. Mais ici, il nous dit que nous sommes destinés à beaucoup de choses. Mes destinées sont dans ta main. Ça veut dire que toutes les choses qui sont devant moi, plans et projets, c'est par la main de Dieu qu'elles peuvent s'accomplir. Sont dans ta main ne veut pas dire encore là que c'est Dieu qui les fera se réaliser automatiquement, que je ne pourrai rien y changer, quoi que je fasse ou quoi que je dise, ça va se réaliser. Non, dans ta main, ça veut dire que c'est par sa puissance que ça va s'accomplir. C'est par sa puissance que nous pourrons accomplir quoi que ce soit. Et une des choses les plus merveilleuses que Dieu nous ait données, c'est de pouvoir élever des êtres qui seront comme Dieu, à l'image de Dieu, éternels, des êtres éternels, destinés à vivre en communion avec lui pour toujours. Et donc, une des principales choses que Dieu nous donne de faire sur terre, c'est d'élever des personnes pour qu'elles marchent dans sa présence. Alors, rassurez-vous, s'il y avait, par exemple, des célibataires ou des personnes qui entendent ce message qui n'aient pas d'enfant naturel, ça ne pose aucun problème. Parce que vous pouvez très bien élever un enfant spirituel dans la foi et l'amener à être au maximum de Dieu. Il y a beaucoup d'orphelins autour de nous, à tous égards. Un des plus grands problèmes que nous rencontrons actuellement, on a parlé récemment de la journée du suicide, un des plus grands problèmes que nous rencontrons autour de nous, c'est des gens qui vivent la solitude au milieu de la foule. Ils sont très seuls. Parce que la solitude, son problème, c'est le problème de la solitude, c'est que nous n'avons pas le Seigneur dans notre vie. Et quand je dis le Seigneur, c'est pas juste, je dis je suis chrétien, j'adhère intellectuellement à la foi chrétienne, je participe à un club qu'on appelle église. Non, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus que ça. Donc, ne vous posez pas de questions. Vous pouvez être jeune, vous pouvez être célibataire, vous pouvez n'avoir jamais eu d'enfant dans votre vie. Si vous entendez ce message, il est pour vous. Vous êtes destiné à travailler dans le royaume de Dieu pour élever des champions pour lui. Mais plus encore pour les familles. Nous avons vu plusieurs points la dernière fois. Je vais juste vous rappeler. On parlait de la destinée que nous avions, comment nous pouvions influencer nos enfants. Nous avons vu à la maison, par le modèle que nous sommes, par rapport à leur fréquentation, leurs camarades, copains, activités. Et maintenant, j'aimerais ce matin que nous voyions un aspect en particulier, comment nous pouvons élever des champions pour Dieu. C'est par rapport à l'Église. L'Église. Quelle est la place de l'Église dans ma vie? Et quelle est la place de l'Église dans ce que je communique aux autres, et en particulier aux enfants? On se rappelle de cette image, c'est un peu symbolique, mais le jeune Samuel a été élevé dans le temple. Pour nous, ça nous semble même, d'une certaine façon, un peu choquant, voire cruel. Cette maman qui n'avait pas d'enfant, finalement, Dieu l'exauce. Et le jeune Samuel, bien, le garde juste les premiers temps de sa vie, et après, elle le donne pour qu'il soit élevé dans le temple. Mais ce déchirement, je dirais sentimental, a vu une bénédiction extraordinaire dans la vie de ce jeune enfant. Vous vous rendez compte qu'à cause de ça, il a été un des prophètes les plus puissants que nous voyons dans la Bible. Il a été dans la présence des rois. C'est lui qui, pour ainsi dire, sous l'influence de Dieu, dirigeait tout le peuple d'Israël. C'est lui qui disait ce qu'il fallait faire. Et comment ces choses ont-elles pu se réaliser dans sa vie? C'est parce qu'il a été élevé auprès de l'homme de Dieu. Homme de Dieu qui n'était même pas parfait. Élie n'était pas un modèle. Il y avait des choses qui n'allaient pas dans sa vie. Il a raté lui-même l'éducation de ses propres enfants. Je parle du sacrificateur Élie, hein. Ne confondez pas avec le prophète Élie. Mais pourtant, cette façon de l'avoir élevé dans le temple, eh bien, produit quelque chose dans la vie de Samuel, où il a pu, on peut dire, réaliser le plan de Dieu pour sa vie. Parce que Samuel était devenu aussi un ami de Dieu. Dieu lui parlait librement comme ça. Vous rappelez quand il a pleuré, Samuel a pleuré sur Saül. Même que Saül avait désobéi, il a pleuré sur lui. Et Dieu lui dit, mais jusqu'à quand vas-tu continuer de pleurer? Dieu le voyait en train de pleurer et disait, mais c'est pas terminé. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. C'est pas parce que Saül a échoué. Ça continue. Il y a encore un autre. J'ai choisi un homme selon mon cœur, David, et lui conduira mon peuple. D'accord ? Alors comment ces choses peuvent-elles se faire ? Y a-t-il encore des Samuel actuellement dans l'Église ? Eh bien, comment vont-ils grandir ? Comment vont-ils accomplir leur destinée ? Cela dépend de vous et de moi, c'est-à-dire de nous, je dirais, grandes personnes. Première question que nous devons nous poser, quelle est l'image de l'Église que nous donnons aux enfants ? Je parlerai toujours enfants, quelle est l'image de l'Église que nous donnons aux enfants ? Je ne dis pas qu'est-ce que les enfants voient dans l'Église, ça c'est encore une autre question. J'ai dit quelle est l'image que nous leur donnons. Parce qu'il se peut qu'il y ait des fois une différence entre les choses qui sont devant nos yeux et celles que la parole de Dieu nous dit. Mais pour nous, qu'est-ce que doit être l'Église ? Qu'est-ce qu'elle doit être ? Elle doit être exactement comme Jésus la voit. Jésus la voit premièrement comme précieuse. Elle a de la valeur à ses yeux. Peut-être nous avons des fois du mépris pour l'Église. Ça vous est déjà arrivé ? Qui n'a jamais critiqué l'Église ? On parle de l'Église en général, ou d'une Église locale, ou de cette Église. Qui ne l'a jamais fait ? Dit quelque chose de négatif. Jésus la voit comme précieuse, comme ayant de la valeur. Elle avait tellement de valeur qu'il a donné sa vie pour sauver les individus que nous sommes. Et il n'a pas fait de calcul statistique. Si plus de 50% de la population mondiale se tourne vers moi, j'accepte de venir à la croix. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que pour lui, autant il savait s'occuper de la foule, autant il pouvait s'occuper d'un seul individu. Donc cette Église a de la valeur parce que chacun d'entre vous a de la valeur à ses yeux. Pas parce que nous sommes des super spirituels, meilleurs que les autres. Non, parce que nous avons individuellement de la valeur. Quelqu'un a donné un jour ce slogan que j'apprécie beaucoup. Il a dit, ce n'est pas parce que nous avons de la valeur que Dieu nous aime. Mais c'est parce que Dieu nous aime que nous avons de la valeur. Le fait d'être aimé nous donne de la valeur. Et tout le monde cherche à être aimé. Vous voulez vous faire accepter. Vous voulez que les gens vous apprécient. Vous voulez que tout le monde soit gentil avec vous. Vous fasse des cadeaux, vous fasse des faveurs, toutes sortes de choses. On cherche sans cesse à être aimé. Mais le chrétien, il peut comprendre qu'il est parfaitement aimé en Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, ça lui donne dans sa vie une sécurité, une force et une capacité de ne plus être constamment un mendiant d'amour, mais capable de donner. Et c'est ce que nous vivons aussi dans l'Église. Je ne dis pas tout le monde, mais dans l'Église, c'est la même chose. Quel est le regard que nous avons sur l'Église ? Nous devons avoir le regard de Jésus. Quand nous aurons le regard de Jésus, nous cesserons de critiquer. Nous commencerons à la voir telle qu'elle est spirituellement. Nous commencerons à dire les choses que Dieu veut que nous disions sur l'Église. Et l'image que nous en donnons sera différente. Et ça donnera à d'autres l'occasion aussi de savoir l'apprécier. Parce que si nous n'apprécions pas l'Église, je parle maintenant de manière générale, faire partie d'une Église, aller aux réunions, alors quand on ne comprend pas ce qui se passe là, nous sommes simplement dans une espèce de club. Nous sommes dans un club social. Mes parents ont décidé d'aller à l'Église, ils m'obligent à aller avec eux tous les dimanches. On est dans une espèce de club. Contrairement à certains clubs, eh bien, d'habitude, les membres ont décidé d'être membres, et bien là, il y a des membres, je dirais, comme forcés. Mais vous savez, dans la vie, des fois, c'est pas différent. Si j'ai voulu, petit enfant, faire du tennis, mais j'ai pas eu l'occasion parce que c'était trop cher, il n'y avait pas de club sur place, ou ceci, cela. Alors maintenant, j'ai une occasion parce qu'il y en a un, mais comme je suis trop vieux, j'inscris mes enfants. Mais ils n'ont pas envie de faire ça, ils préféraient faire de la musique. Mais je les inscris et je les oblige alors à s'entraîner sans cesse. Et vous pouvez transposer ça à l'Église et c'est des fois on trouve des similitudes. Et puis on dit en même temps, on dit mais l'Église n'est pas un club. J'ai dit, mais dans les clubs, vous savez qu'il y a des choses qui sont des fois mieux que dans l'Église. Et il y a des gens qui sont bénévoles, qui sont dévoués, qui donnent tout leur temps, toute leur énergie. Pourquoi ? Pour courir après un ballon. J'ai rien contre le sport, hein, mais il faut simplement comprendre ce qui se passe. Et quand on dit, nous sommes ici un groupe de chrétiens, nous sommes rassemblés pour louer, adorer le Seigneur Jésus-Christ, le Père en esprit, en vérité. Nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, celui qui a créé toutes choses, qui est le maître de l'univers et qui nous a sauvés de la condition dans laquelle nous étions. Et on dit, bof, à quoi ça sert? Ça ne m'intéresse pas. On se dit, mais il faudrait se réveiller un petit peu. C'est parce que nous sommes, en fait, avec un voile d'incrédulité. Tout ce qui est mondain, tout ce qui est charnel, comme le dit Hébreu, le péché qui nous enveloppe si facilement. Vous savez, quand vous êtes enveloppé complètement, avec des bandages, pensez à une momie, hein, vous ne voyez plus rien, vous êtes complètement lié, eh bien, vous n'êtes pas capable d'apprécier la lumière du jour. Et nous avons ici la lumière, Jésus qui est la lumière du monde, nous l'avons ici. Vous savez qu'il est là tous les dimanches matins? Il n'est pas là le samedi, parce qu'il n'y a personne ici le samedi, qu'est-ce qu'il y ferait? Il est seulement là où vous êtes, parce qu'il est en vous. Donc il est là parce que nous y sommes, et nous avons donc à voir quelle est l'image que nous communiquons. Avons-nous de l'enthousiasme pour courir à l'église? Il y a des gens qui sont religieux, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça. Je parle d'avoir de l'enthousiasme, de se dire, c'est quelque chose qui est formidable. Si seulement nous pouvions des fois faire un petit stage d'une semaine dans une région où vous seriez le seul à croire en Jésus-Christ, au milieu d'une population datée d'idolâtres, qu'est-ce que vous seriez heureux de revenir à un endroit où on peut de nouveau se rassembler, où on peut chanter les louanges de Dieu? Si vous étiez dans un endroit où vos épis sans cesse et on vous enregistre, et que si jamais vous évoquez seulement le nom de Jésus, vous seriez immédiatement mis dans un cachot, peut-être on se rendrait compte de la valeur de ce que nous avons. On dit des fois le fait d'être privé de quelque chose nous montre ce que ça vaut. C'est quand vous n'avez pas mangé depuis longtemps que vous appréciez un bon repas. La Bible dit que celui qui est rassasié foule aux pieds même le miel. Mais celui qui a faim, il mange même ce qui est amer. Ainsi que quand on est rassasié, quand on a tout ce qu'il faut, notre problème c'est que des fois, nous ne sommes pas assez heureux et pas assez malheureux. Nous sommes dans le milieu. Nous sommes un peu au milieu, dans le tiède. Vous savez ce que c'est, le tiède? C'est quand on n'est ni bouillant ni froid. Alors ça va. Nous n'avons pas tellement besoin de crier à Jésus pour qu'il nous guérisse, parce que nous avons les hôpitaux. Et nous pensons, une illusion, nous pensons que s'il y a un problème de santé, on pourra toujours y aller et se faire soigner et guérir. Mais il y en a des milliers qui ne guérissent pas. Même dans nos hôpitaux hyper sophistiqués, ils ne guérissent pas. Mais il y a des endroits où il y a plus de miracles, parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Il y a des endroits où ils prient même quand ils ont mal aux dents, mais nous on va chez le dentiste. Il y a des endroits où ils sont obligés de faire certaines choses. Et pour eux, eh bien, le mal que le diable a envoyé contre eux se transforme en bénédiction parce qu'ils expérimentent la puissance de Dieu. Il y a des endroits où ils sont obligés de crier à Dieu. Alors nous, n'attendons donc pas d'être dans une situation extrême, mais sachons montrer notre reconnaissance et disons, Seigneur, je ne veux pas rester dans le tiède, je veux aller dans le bouillant. Bouillant pour Jésus, bouillant pour son plan, bouillant pour l'Église, parce qu'au travers de l'Église, eh bien, c'est l'œuvre de Dieu qui se réalise. Il a choisi de nous utiliser. Donc, une chose encore par rapport à l'image de l'Église, celui qui critique l'Église et qui fait partie de l'Église se critique lui-même. Parce que l'Église est ce que vous en avez fait. Chacun peut dire ce que j'en ai fait. Ce que j'en ai fait. C'est le résultat, l'Église est le résultat de toute notre vie de chacun mis ensemble. Hein? Et on dit des fois qu'une chaîne, elle est aussi forte que le plus faible des maillons. Parce que vous pouvez avoir de gros maillons très forts, costauds, résistants, mais s'il y en a un qui est petit et qui est fragile, ça va craquer. Hein? Donc c'est pour ça que la Bible nous exhorte à dire de tout le temps s'encourager les uns les autres. Prenez garde à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, parce que si à côté de moi mon frère est faible ou une sœur chute, eh bien ça tire tout le corps vers le bas. L'autre jour encore, notre frère montrait son écharde dans le doigt. Pas grand chose une écharde, mais ça fait mal, hein. Juste un petit millimètre des fois dans notre corps, c'est pas grand chose sur l'ensemble. Mais si une infection se développe, eh bien, on s'en souvient. Donc gardez à l'esprit ce que nous sommes en train de partager. L'idée que vous avez de l'Église de Jésus-Christ va avoir une influence sur l'image que vous avez de l'Église et que l'image que vous transportez avec vous, que vous transmettez aux autres. Parce que vous pouvez être dans cette situation où vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu et vous empêchez les autres de rentrer. C'est-à-dire, vous ne rentrez pas dans la plénitude de ce que Dieu veut faire au milieu de nous, et à cause de votre attitude négative, vous pouvez aussi faire que d'autres n'aient pas envie d'y aller. Donc, examinons-nous. Regardons pourquoi je suis dans cet état. Pourquoi je n'y crois pas? La plupart du temps, c'est de l'incrédulité. On n'y croit pas. Non. Depuis le temps, toutes les promesses qu'on a entendues, et il n'y a pas eu le réveil, il n'y a pas des millions de personnes qui se tournent vers Christ, donc ça ne se passera pas. Voilà. Conclusion. Non, c'est de l'incrédulité, c'est tout. L'image du pasteur, il faut en parler aussi. Le pasteur a reçu de la part de Dieu une position particulière dans le corps. Il n'est pas le seul, il y a d'autres ministères. Mais il se trouve que dans une église locale, eh bien, le Seigneur a donné un pasteur. Le pasteur est là pour nourrir, pour veiller sur, n'est pas là pour surveiller, mais pour veiller sur, je préfère le dire dans ce sens, pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit une prison et je garde la porte, mais plutôt, c'est une maison et je surveille qu'il y ait personne qui rentre par la porte ou par la fenêtre, pour un voleur qui vient pour dérober, égorger, détruire, dans ce sens. Donc, veiller sur, et ce qu'il y a de particulier, c'est que Dieu lui a donné une responsabilité. Avec une responsabilité, il y a aussi une autorité qui vient, une autorité spirituelle. Et ça vient de Dieu. Je ne parle pas des pasteurs tyrans, je ne parle pas de ceux qui veulent développer leur propre royaume, qui ont un problème avec leur personnalité, qui cherchent toujours à dominer sur les autres. Nous avons parlé de ces histoires-là. Je range ça dans le catalogue sorcellerie. Donc je parle de celui qui est un homme de Dieu. Pas parfait peut-être, mais cherchant à servir le Seigneur. Alors que se passe-t-il? Il a une autorité. Et si vous attaquez constamment cette autorité, si vous critiquez sans cesse, que se passe-t-il? Vous travaillez contre le plan de Dieu, vous affaiblissez l'image de ce que le Seigneur fait dans son Église. Et c'est très grave parce que Éphésiens 2 nous dit que autrefois, nous étions de leur nombre. De quel nombre? De ceux qui étaient morts par leurs offenses et leurs péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. Fils de la rébellion. La rébellion est le signe du diable. C'est ce qu'il a voulu faire, s'élever contre le trône de Dieu. C'est-à-dire, moi je m'élèverai au-dessus du trône de Dieu. Il avait entendu quelque chose. Il avait entendu le message sur la puissance des paroles. Et il s'était dit, moi aussi je vais faire ça. Alors il a commencé à dire, je m'élèverai au-dessus du trône de Dieu. Le Seigneur lui a dit, pour toi ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas avec tes paroles t'élever au-dessus de mon trône. Alors tu seras abaissé, jeté par terre. Et ça c'était le signe de l'activité du diable, vouloir se rebeller contre toute forme d'autorité. Ainsi, nous qui sommes exhortés dans Romains 13, même à respecter les autorités des gens autour de nous, dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, à plus forte raison, ce que Dieu a établi dans l'Église. Et donc, autrefois, on peut comprendre que nous étions dans cet état, mais maintenant, ne manifestons plus ces aspects de rébellion. Il ne s'agit pas de ne pas avoir le droit de poser de questions. Il ne s'agit pas de ne pas pouvoir dire des choses qui ne vont pas. Ce n'est pas la question. La question, c'est de vouloir défier l'autorité, affaiblir l'autorité et se rebeller contre ce que Dieu fait. Même si on ne comprend pas toujours tout. Alors, quelle est l'image du pasteur que vous donnez à vos enfants? Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce qu'il y a de l'honneur? C'est ça qui compte. On ne parle pas de l'idolâtrer ou de l'admirer. Je parle simplement d'abord d'honneur et de respect. Et des fois, si ce n'est pas le pasteur, si on considère qu'il est d'une certaine façon intouchable, c'est l'homme de Dieu, alors il y a quelque chose de plus subtil, on s'attaque à la femme du pasteur. Parce que c'est, on se dit, bon ben elle n'est pas pasteur, donc elle n'est pas parfaite, puis on se permet de critiquer. En général, c'est aussi encore une façon déguisée d'attaquer l'autorité. C'est très important, c'est très sérieux les choses que je dis maintenant, mais c'est tellement important que votre avenir éternel en dépend, l'avenir éternel aussi de vos enfants. Les destinées de Dieu vont-elles se réaliser ou non? Je ne parle pas du salut, hein. Je ne suis pas en train de menacer qui que ce soit. Alors, attention, si vous me critiquez, vous serez perdu. Ce n'est pas ça que je dis. Ne déformez pas mes propos. L'image de l'Église, l'image du pasteur et l'image du chrétien. Quelle est l'image du chrétien que vous donnez? Vos enfants, souvent, ne savent pas ce qu'est un chrétien. On n'en sait rien. Il y a beaucoup de choses, on n'en sait rien. On l'apprend au fur et à mesure. Vous savez, vos enfants, quand ils naissent, ils ne savent pas ce que c'est un papa ou une maman. Ils ne le savent pas, ils ne savent rien du tout. Alors, ils découvrent au fur et à mesure. Ils découvrent, par exemple, au début, maman égale nourriture. Ils découvrent, ah, c'est une fonction de la maman. C'est celle qui me nourrit, même tout petit. Quand il a faim, il appelle maman. Je ne parle pas des biberons. Je parle de la façon dont l'enfant peu à peu découvre son environnement. Eh bien, de la même façon, un jeune chrétien ou un jeune qui est dans une église ne sait rien de ce que c'est un chrétien. Il n'a peut-être pas étudié la Bible pendant des heures pour voir la définition du chrétien. Alors, il se fait une opinion d'après les chrétiens qu'il a autour de lui. Les premiers chrétiens étant ses parents, et il se dit, voilà, mes parents sont chrétiens. Un chrétien se comporte comme mes parents. Mes parents se comportent d'une façon telle ou telle, ça doit être normal pour un chrétien. Vous me suivez? Et vous voyez jusqu'où ça nous mène, ça? Et c'est la réalité. C'est la réalité. Vous pouvez, et vous le savez, vous ne pouvez pas dire tout le temps, tu sais, un chrétien devrait faire ceci, cela, mais moi je fais ça, et je me permets ci, et ça va très bien. Non, ça ne passe pas du tout, parce que vos actes vont parler plus que vos mots. Donc, des fois, des chrétiens, on parle d'eux comme étant les fidèles. Hein? Les fidèles. On parle des paroissiens qui sont les fidèles, les membres de l'assemblée qui sont les fidèles. Une des premières choses qu'on demande à un chrétien, c'est sa fidélité. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas être infidèle? Ben, si tu poses cette question, c'est que j'ai encore rien compris. Jésus s'est donné entièrement pour nous. Il veut que nous soyons avec lui dans une alliance plus forte encore que celle entre un homme et une femme. Que Dieu dit que c'est quelque chose de très très sérieux. Il dit, je suis témoin, moi l'Éternel, je suis témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Je suis votre témoin. Dans l'église, quand les gens se marient, même à la mairie, il y a des gens qui ont les témoins avec eux. Hein? Mais Dieu dit, moi je suis le premier témoin de toute union. Je suis le premier qui veille sur cette union. Très au sérieux, très au sérieux. Dieu sait ce que c'est une alliance. Quand il s'engage par le sang de Jésus, l'alliance par le sang de Jésus, ça veut dire une alliance à la vie et à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Hein? Sois fidèle jusqu'à la mort. Combien de chrétiens avons-nous ici qui sont fidèles jusqu'à la mort? S'il y avait un bataillon dehors avec des hommes en armes qui disent « Si jamais vous remettez les pieds dans cette église, on vous poursuivra jusqu'au bout de la terre et on va vous tuer. » Vous diriez « Bon, ok, pas un fanatique, je suis prêt à abandonner. » Mais en fait, ce que je dis sous une forme d'humour, c'est quelque chose de très important. La fidélité, c'est une décision. À un moment donné, je décide d'être fidèle à mon conjoint. Je décide d'honorer le contrat que j'ai avec mon patron, je décide d'honorer le contrat que j'ai avec l'électricité de Strasbourg, qui me fournit du courant en échange de quoi je paye mes factures. C'est tout un système d'alliance dans lequel nous vivons. S'il n'y a pas de fidélité, tout le système s'écroule, hein, et plus rien ne marche. Alors, la fidélité est une des premières qualités demandées. Fidélité à l'Église ne veut pas dire « Je suis obligé d'assister à toutes les réunions. Mais rien que le fait de dire est-ce qu'on est obligé d'assister aux réunions, je peux aussi poser la question, est-ce qu'on est obligé d'être béni? Est-ce que je suis obligé de grandir en Christ? Est-ce que je suis obligé de recevoir la bonté de Dieu? Vous voyez, on est dans une fausse logique d'obligé, n'êtes pas obligé. Est-ce que je suis obligé de manger à midi? Non, tu peux ne pas manger, ni à midi, ni ce soir, ni la semaine prochaine. Tu n'es pas obligé. Mais tu en auras envie, ton corps va le réclamer. Ne vous en faites pas, il va le réclamer. L'image du chrétien que vous communiquez autour de vous, c'est le chrétien, qu'est-ce qu'il donne? Il donne une image de lui-même autour de lui. En particulier, je parle d'un contexte d'enfant. La prière, est-ce que vous donnez l'image de quelqu'un qui prie? Vos enfants ont le droit de vous voir prier. Et pas toujours tout secret. Et pas juste, Seigneur bénit ces aliments et puis on jette sur les assiettes. Je parle de quelqu'un qui prie, qui trouve que c'est assez important de passer du temps en prière. Qui même dit des fois, écoutez, maintenant j'ai besoin d'une heure pour être tranquille, pour prier. Ça ne choquerait pas la plupart des enfants que papa dise, écoutez maintenant, vous me laissez tranquille parce que maintenant il y a la finale de la machin truc à la télé et pendant 2 heures je ne veux pas être dérangé. Tout le monde trouverait ça normal, mais bien sûr, il ne faut pas déranger pendant... Mais de dire, maintenant pendant 1 heure, ne me dérangez pas, j'ai besoin de passer du temps dans la communion avec Dieu, dans la prière et dans la parole. Est-ce que vous donnez ce témoignage? Je parlais de la fidélité par rapport à l'assistance aux réunions. La présence aux réunions a un impact dans l'esprit de nos enfants. Pourquoi? Nous voulons en faire des champions pour Dieu. Nous ne voulons pas qu'ils soient des chrétiens à temps partiel. Si de temps en temps on vient puis on ne vient pas, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire le réflexe suivant. Finalement, ce n'est pas tellement important de rater une réunion. Ah bon? Eh bien important. Et s'il y a une prophétie? S'il y a une parole de Dieu dont tu avais besoin et qu'elle est donnée et que tu ne sois pas là, ah ben alors je pourrais l'écouter sur la cassette. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. D'accord? Des fois ça ne marche pas. Nous avons besoin de se dire, est-ce que c'est important? Seigneur, où est-ce que tu me veux? De temps en temps peut-être le Seigneur te dira, tu as besoin d'avoir du temps avec ta famille. Ne va pas à la réunion maintenant. Peut-être il te dira une fois, ton corps a besoin de repos. Tu n'as pas besoin de courir, tu as besoin de repos. Peut-être il te dira une fois, ce que je veux, c'est pas que tu ailles à la réunion, mais que tu prennes du temps pour moi, tout seul. D'accord? Vous êtes d'accord? Toutes ces choses sont valables. Vous avez même le droit d'aller en vacances, mais vous n'avez pas le droit d'être négligent avec vous-même. Je vous le dis pour votre bien. Ne soyez pas négligent. Parce que vous créez autour de vous quelque chose, un modèle. S'engager. L'image que le chrétien donne, quelle est l'image de l'engagement que vous donnez autour de vous-même? Jésus a dit, toi, suis-moi. D'accord? Est-ce qu'il l'a seulement dit aux 12 apôtres ou est-ce qu'il l'a dit à tout le monde? C'était un appel pour les 12 apôtres en particulier. Mais nous comprenons facilement que c'est un appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'il n'y aurait dans le corps de Christ qu'une partie de gens qui s'engagent et une autre partie de gens qui ne font rien? Et si votre corps ne fonctionnait qu'à moitié, qu'est-ce que vous seriez? Ça s'appelle, en termes médicaux, hémiplégique. Et oui, c'est une réalité. Un corps qui ne fonctionne, par exemple, en étant paralysé à certains endroits, eh bien, c'est un corps qui est handicapé. Le corps de Christ est-il handicapé? Oui, il est gravement handicapé. Il y a très peu de gens qui sont vraiment en train de servir Dieu. Très peu. Choisissez vous-même où vous êtes. Ça, c'est votre réponse entre vous et Dieu. Vous n'avez qu'une vie à vivre. Elle est très courte, quelques dizaines d'années. Ensuite vient l'infini. Mais vous avez autour de vous des gens qui vous regardent et qui voient. Toutes les semaines, peut passer des dizaines d'heures à regarder la télé, à courir à droite à gauche, acheter plein de trucs inutiles et s'endetter pour acheter ces choses. Et ensuite avoir des soucis d'inquiétude matérielle et puis être tellement fatigué, exténué au niveau de notre âme qu'on est trop fatigué pour aller faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Voilà le résumé de la vie de certains. Et donc nous disons, mais non, ça ne va pas du tout. Il faut qu'il y ait là une prise de conscience, une réaction. Est-ce qu'on peut voir des gens qui servent le Seigneur, qui soient des modèles? Est-ce que nous pouvons voir qu'il y ait des futurs champions pour Dieu qui aient eu devant eux des exemples? La Bible nous dit, rappelez-vous de bons conducteurs qui vous ont dirigé selon le Seigneur. Considérez la fin de leur vie, imitez leur foi. Je n'ai pas honte de le dire, je calque ma vie, j'essaie du moins, je me trouve encore très loin, certains hommes de Dieu. Quand je vois leur énergie à 80 ans passés, continuent encore de parcourir le monde, de prêcher et de toutes ces choses, alors qu'il y en a qui depuis longtemps sont à la retraite et ne font rien du tout, rien du tout. Leur vie ne vaut rien. Moi je préfère que ma vie, eh bien, elle ait du poids. S'engager, quelle est la motivation pour s'engager? Là encore, on voit des gens qui sont motivés pour leur club, leur association, ils donnent leur temps et leur énergie. Et là, pour Jésus, ça ne vaut pas le coup. Pour lui, ce n'est pas la peine. Quelle est notre motivation? Lui, il est venu, il est dit non pour être servi, mais pour servir. Quand on demande de l'aide dans l'église, combien se lève? Vous savez, c'est souvent un peu des mêmes personnes et qui se chargent de trop et d'autres n'en font pas assez. Et combien de fois j'en ai vu aussi qui prenaient une responsabilité, ils s'engageaient devant Dieu et 15 jours après, on ne les voit plus. Vous savez, leur vie est une catastrophe parce qu'ils n'ont pas de constance, eh bien ça va se produire dans tous les aspects de leur vie. L'église est le terrain d'expérimentation. C'est là qu'on peut être transformé, c'est là qu'on peut être changé. Et c'est là qu'on a des frères et sœurs pour nous aider. Je ne serai jamais celui qui va vous condamner parce que vous aurez fait une erreur. Je ne serai jamais non plus celui qui va vous faire des reproches parce que vous n'étiez pas là. Mais je serai toujours celui qui va souffrir pour vous parce que je vois votre vie en train de se décomposer et que je ne vois pas Christ formé en vous et que je ne vois pas de service pour Jésus. Et je trouve qu'il vaut la peine d'être servi. Répondre à l'amour de Dieu. La compassion de Christ nous presse, disait l'apôtre Paul. Servir s'il y a un besoin, il y a des besoins dans l'Église, parce qu'il y a des besoins dans le corps de Christ, et surtout parce que plus loin, il y a des besoins dans le monde. Est-ce que c'est au gouvernement de répondre aux besoins du monde? Est-ce que c'est aux organismes, non pas comment ça s'appelle, non gouvernemental de répondre à l'ONU ou que sais-je? L'Église a à répondre à un besoin. Servir car aimer. Sommes-nous tellement indifférents? La Bible nous dit pourtant que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que nous sommes refroidis? Ça ne nous intéresse plus de marcher pour Dieu? Nous avons besoin de nous situer. Nous avons besoin de mettre ces choses au clair. Il y a un appel de Dieu. Il y a des besoins. Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Nous faisons cela, nous prions. Encore faut-il que les ouvriers acceptent aussi d'entrer dans la moisson. Et ça, c'est leur responsabilité. Dieu appelle ce matin. Il appelle des jeunes et moins jeunes à dire, viens et suis-moi. Alors quand on dit, viens et suis-moi, il y en a tout de suite, je viens, je fonce avec mes idées. Tes idées sont peut-être bonnes, mais tu n'es pas prêt. Jésus a dit, viens et suis-moi. Après, il y avait une formation avec le maître pendant 3 ans comme disciple. Alors, après cela, seulement, il a dit, allez maintenant dans le monde entier. Comprenez? Il y a des gens qui viennent, mais ils ont leur propre motivation. Je veux servir Dieu, mais je veux faire ci, je veux faire ça, et je crois que ci, je crois que ça. Mais tu as besoin d'être formé. Peut-être que tu as besoin d'abord de désapprendre des choses que tu avais apprises. Tu étais peut-être déformé au niveau de ta pensée, parce que tu pensais comment? Ben comme tout le monde. Quand on n'a pas la parole de Dieu, on pense comme tout le monde. Mais la Bible nous donne de renouveler notre intelligence. L'esprit du monde est dans l'Église. Il y est grandement présent et nous devons le mettre à la porte. Nous vous devons le mettre dehors. Nous raisonnons trop comme tout le monde. Nous pensons à nous d'abord, comme le monde. Ça ne va pas. Jésus dit, ça ne va pas. Ça ne peut pas marcher. Sachez que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles car les hommes seront égoïstes. C'est une des premières choses qui est dite. Les hommes seront égoïstes. Je pense à moi. Moi. Pourvu que tout aille bien pour moi. Mes envies, mes désirs, mes passions doivent être d'abord répondus. Et ensuite, si je suis heureux, satisfait, je vais servir Dieu à ma façon. Ça ne va pas. Ce n'est pas un programme qui peut marcher. Ce n'est pas acceptable. Et si je vous dis ça, c'est parce que nous avons simplement besoin de réaliser où en est l'Église. Je ne parle pas de vous accuser l'un ou l'autre. Ce n'est pas la question. Je le vois parce que c'est une chose générale. L'esprit du monde est autour de nous, cherche à infiltrer, nous envelopper et rentrer en nous. Un jour, je vous ferai un beau message sur le fait d'être d'abord oppressé par une pensée, puis obsédé et finalement possédé par une pensée. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. D'abord, c'est tout autour de nous. Ensuite, ça rentre en nous, c'est dans notre tête. On y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis finalement, on est consumé par le désir. On sera malheureux si on ne peut pas accomplir ce qu'on avait pensé. Ça peut être des choses très simples, au niveau des objets. Vous avez une très bonne voiture, elle roule bien. Elle est presque comme neuve. Elle est parfaite. Mais le voisin, on a une nouvelle, plus belle. Et vous pensez, si seulement j'en avais une comme lui, je serais heureux aussi. Et vous pensez tout le temps, vous en rêvez. Et puis finalement, vous êtes malheureux parce que vous n'avez pas ce qu'il a. Ça, c'est un exemple très simple qui se reproduit des dizaines, des centaines de fois dans la vie de chacun d'entre nous et nous avons besoin de lutter contre. L'obéissance d'un disciple. Est-ce que vos enfants voient en vous un disciple de Jésus-Christ? Le disciple est celui qui voit la bénédiction de Dieu. Les autres ont des fois, comme vous savez la femme syrophénicienne, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Est-ce que vous êtes un petit chien qui est sous la table du maître? Moi, je crois que nous sommes enfants de Dieu, appelés à être assis avec notre Père Céleste sur la table qu'il a dressée devant nous. Non, c'est pas ça. J'ai dressé devant vous une table en face de vos ennemis et vous êtes à ma table. Comme le disait dans Luc 15, le Père, « Mais mon enfant, tu es toujours avec moi et ce que j'ai est à toi. » Nous ne voulons pas nous contenter des petites miettes, nous voulons expérimenter la bénédiction. Les champions pour Dieu dans l'Église, c'est aussi aider quelqu'un à trouver sa place. Trouver sa place. Tu as une place. Et je me réjouis de voir la place qu'ont trouvé certains jeunes dans l'Église. Parce que chacun a un domaine où il sera non seulement efficace, mais en plus heureux. Et maintenant, avec nos églises, dans le temps dans lequel nous vivons, eh bien, il y a des tas de choses où vous pouvez faire intervenir l'ordinateur, soit pour des cassettes, des jaquettes, des étiquettes et que sais-je encore, travailler aux machines comme de sonorisation ou duplication ou d'autres choses. Et nous pouvons gérer notre stock de livres avec des fichiers. Et il y a tellement d'autres choses encore qu'on peut faire que chacun d'entre nous peut trouver une place qui sera non seulement une place où il sera utile, où un besoin sera répondu, mais en plus, je vous le garantis, il y a une place où vous serez heureux. Heureux d'être à votre place. Si quelqu'un d'autre est à votre place, c'est peut-être pas la place qui lui convient. Il va peut-être faire moins bien que vous. Et votre place sera vide pendant ce temps. Et combien c'est désolant de voir les gens qui se sont engagés et qui ont laissé tomber leur engagement en cours de route. Il est important d'honorer ses engagements. Je ne critiquerai jamais quelqu'un qui me dit « Écoute, je ne sais pas à quoi je peux m'engager, j'aiderai du mieux que je peux quand je serai là. » Je dis « Ok, il n'est pas capable maintenant. » Je ne dis pas que c'est le meilleur pour lui, mais je respecterai ça. Mais le fait de s'engager à quelque chose et après de briser sa parole est quelque chose qui est grave pour nous-mêmes. Aider à trouver sa place aux jeunes aussi. C'est le problème aussi. On ne peut pas embaucher tous les jeunes parce qu'il faut aussi qu'ils soient en Christ. Quel travail pourrez-vous faire? Pourrez-vous faire un travail de qualité dans l'Église si vous n'êtes même pas à Jésus-Christ? Si vous êtes juste enfant de membre, ça ne suffit pas. Engagez-vous vous-même avec le Seigneur. Vous n'êtes pas trop vieux ni trop jeune. Fidèle dans le soutien aussi. On honore Dieu avec les prémices de notre revenu. On montre l'exemple, on prie pour les choses que Dieu nous donne. On dit, les enfants, nous remercions le Seigneur. Regardez tout ce qu'il nous a donné. Et nous croyons en lui pour qu'il pourvoie à nos besoins. Et nous remercions pour les choses que nous avons reçues de lui. Et à cause de ça, nous n'allons pas rester seulement sur nous-mêmes, mais nous voulons comprendre le plan de Dieu aussi dans les dîmes et les offrandes. Vous savez, je crois sincèrement que le système de la dîme est un système qui est vieux. Ce qui est vieux n'est pas forcément mauvais. Mais c'est vieux, c'est presque, je vais peut-être offenser quelques-uns, presque un peu dépassé. Nous sommes dans un système actuellement où Jésus s'est donné tout entier pour nous et nous devons nous donner tout entier pour lui. Si vous dites, Seigneur, je t'ai payé mes 10%, maintenant on est quitte. Vous n'avez encore rien compris à la relation que vous avez avec Dieu. Encore rien. Non. Tout ce que vous avez est à lui. Et tout ce qu'il a est à nous. C'est ça la réalité. Tout ce qu'il a est à nous. Mais aussi tout ce que nous avons est à lui. Et je crois que c'est bon. La dîme, c'est une bonne base. C'est une bonne base spirituelle. Ça nous entraîne. Ça nous aide à devenir disciples. Et il y a des promesses bibliques concernant ces choses. Mais ne vous arrêtez pas à des choses comme ça. Allez plus loin. Donnez-vous tout entier. L'exemple aussi en tant que parent de demeurer fidèle dans une église. Oui, dans une église. Passez d'un endroit à l'autre comme ça. Qu'est-ce que vous allez produire ? Je parle maintenant pas pour vous-même. Je parle du modèle que vous imprimez chez vos enfants, chez les jeunes. Passez d'une église à l'autre. Il y a un parallèle entre mari-femme, Christ et l'église, et aussi entre l'église locale et le pasteur. Il y a une fidélité, on s'engage. Quand vous êtes membre de cette église, moi je suis engagé par rapport à vous. Je ne peux pas vous dire, lui, je m'en fiche. Non, je ne m'en fiche pas du tout. Au contraire, je suis responsable devant Dieu et je prends la chose très à cœur. Mais en même temps, dans une alliance, eh bien, il y a une réciprocité. Et là, je ne veux pas tellement parler de votre attitude, mais je veux parler surtout du fait que vous communiquez à vos enfants pour toute leur vie des modèles de stabilité, des modèles de caractère qui vont les influencer. Si vous dites, ça ne me plaît pas comment ça se passe dans cette église, on va voir ailleurs, quelque part où ça nous plaît mieux. Ça montre quoi ? Que vous êtes rempli, non pas du Saint-Esprit, alors là pas du tout, vous êtes rempli de l'esprit du monde. Je ne cherche que ce qui me plaît. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? C'est la question. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit du tout. Si une église enseigne des fausses doctrines, si on vous empoisonne depuis le micro en vous disant des choses qui sont contre la parole de Dieu et qui nuisent à votre santé spirituelle, vous devez non seulement quitter l'église, mais partir en courant, fuir cette église. Vous avez le droit de partir. Mais si c'est juste pour des choses qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas, des questions de personnalité, des questions de relations, ce ne sont pas des motifs valables. Parce que ça imprime dans la vie des jeunes à ce moment-là aussi cette habitude de quand une chose est trop difficile, je quitte. Mais comment allez-vous créer dans vos jeunes et dans vos enfants des champions pour Dieu si chaque fois qu'il y a un obstacle, on essaye de quitter ? Comprenez ? Si j'aurais dû abandonner chaque fois qu'il y avait un obstacle dans ma vie, eh bien j'aurais eu beaucoup d'occasions. Mais je ne les ai pas saisies. À vous aussi de faire la même chose, de dire c'est pas parce que ça nous plaît pas toujours, c'est pas parce que c'est difficile et qu'on va laisser tomber. Je vous ai dit qu'il y a des situations où nous avons le droit et même le devoir de quitter, d'accord? Il y a aussi des situations où ça peut être conduit par le Seigneur de dire il y a une nouvelle voie pour toi, il y a une nouvelle direction. Je ne parle pas de gens qui sont esclaves d'une secte. Vous n'êtes pas dans une secte ici. Alléluia! La porte est ouverte pour entrer et sortir. Ça n'empêche pas que nous devons comprendre certains principes de la parole de Dieu. Dernier point, aider quelqu'un à découvrir sa destinée en Jésus. J'ai dit mes destinées sont dans ta main. Oui ? Tout le monde a une destinée. Dites avec moi, j'ai une destinée.
J'ai une destinée.
J'ai une destinée en Jésus. J'ai une destinée en Jésus. Petit ou grand, qu'est-ce que c'est que ça, petit ou grand ? Vous voulez être petit dans le royaume de Dieu ? Oh, moi je suis humble, je veux être le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais non, Il n'y a pas lieu d'être petit dans le royaume de Dieu parce que le besoin dans le monde est grand. Si tu veux être humble, ça veut seulement dire que tu vas reconnaître que ce que tu auras accompli, ce sera au travers du Seigneur. Ça ne veut pas dire humble, ça veut dire je suis bête, je ne peux rien faire, non. Être humble, ça veut dire ce que je peux faire, je le fais avec la force que Dieu communique, avec l'intelligence qu'il me donne. L'apôtre Paul disait, notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Vous feriez bien d'en faire votre confession tous les jours. Déclaration, le matin, ma capacité vient de Dieu. La capacité de cette journée vient de Dieu. Ce que je vais accomplir dans cette journée, eh bien, je l'aurai fait au travers de ce que Dieu m'aura communiqué. Même mon corps, parce qu'il peut se déplacer, eh bien, c'est un don de Dieu. Même ce que mes yeux peuvent voir, c'est un don de Dieu. Mes oreilles peuvent entendre, ma bouche peut parler. Et plus encore, les choses spirituelles que je peux réaliser. Et il y en a qu'on peut réaliser. C'est important, un aspect que si nous voulons élever des champions pour Dieu, nous soyons bien dans notre église, que nous sachions quelle est la valeur de cette église, que nous sachions y vivre et que nous sachions le transmettre. Nous aimons ce que nous faisons. Je parle maintenant de moi et de mon épouse. Nous aimons servir le Seigneur. Il n'y a rien de mieux. Et j'aimerais vous le dire pour vous aussi. Je ne dis pas que c'est facile. C'est souvent difficile. C'est souvent fatigant. Mais nous ne voudrions échanger pour rien au monde. Et vous devriez arriver à ce même constat. Là où je suis, je reste parce que Dieu m'a demandé de défendre ce coin du royaume de Dieu. Vous vous rappelez comme les murailles de Jérusalem, il était dit que du temps de Néhémie, quand tout était dévasté, et moi je trouve que l'église est dans cet état. Elle est dévastée, elle est en mauvais état, les murailles sont écroulées en certains endroits, l'ennemi peut rentrer facilement, il nous faut non seulement le mettre dehors, mais aussi reconstruire la muraille là où elle était écroulée. Néhémie a reçu ce plan de Dieu, il a reçu ce plan qui disait, eh bien que chacun reconstruise la muraille là où il habite. Il aura intérêt à bien la reconstruire, puisque c'est juste là qu'est sa maison. Vous voyez ? Donc vous aussi, considérez que ce que vous faites dans l'église, en même temps, a une influence directe sur vous et votre foyer. Comprenez ? Si vous êtes fidèle dans l'église et que vous travaillez un domaine particulier, il y aura immédiatement des répercussions au niveau de votre propre vie. Des bénédictions. Est-ce que vous pouvez le concevoir, ça ? Je vous donne un exemple. Pour moi, c'est simple. Si je veux prêcher sur la bonne santé, la guérison divine pour l'église, qu'est-ce que je suis obligé de faire ? Je dois étudier. D'accord ? Je dois sonder les Écritures. Je dois regarder ce que la Bible dit à ce sujet. Et pendant que je le fais, pour l'église, eh bien moi-même j'en bénéficie. Je suis fortifié. Ma foi est fortifiée. Vous comprenez cet exemple ? Je le fais pour servir Dieu. Et la récompense que j'en ai, c'est que j'en suis le premier bénéficiaire. Quand j'étudie sur la santé que Dieu nous donne, eh bien je vois ses promesses, la vie de Dieu se manifeste en moi, et je suis le premier à en bénéficier. Et ainsi de même pour d'autres sujets. Mais vous n'êtes pas différent de moi. Vous êtes juste dans d'autres fonctions dans le corps. Mais les mêmes choses que vous faites, pour toi aussi. Quand tu prépares ta leçon pour les enfants, tu es obligé, de passer du temps dans la Bible, dans la prière, dans la préparation. Tu es obligé même de vivre une vie sainte, parce que tu dis, je ne peux pas me présenter devant les enfants, ils leur racontent n'importe quoi, alors que ma vie est un désastre pendant toute la semaine. Pour moi, c'est la même chose. Je suis obligé de vivre ma vie d'une certaine façon, parce que tout le monde regarde à moi. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais on regarde à moi, et ça me stimule pour vivre ma vie devant Jésus d'une manière qui lui donne gloire. Eh bien pour vous, c'est la même chose. Vous n'êtes pas différent pour ça. Parce que vous êtes membre ici, parce que vous êtes corps du Christ, eh bien les regards sont fixés sur vous. Vous le savez ? Hébreux 12 nous dit, nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, vous êtes comme dans une arène, comme dans un stade, tous les spectateurs vous regardent, comment va-t-il courir sa course ? Et nous sommes dans la course pour Dieu. Et vous savez que ce qui est formidable, c'est les spectateurs dont il nous est question, cette grande nuée du témoin, ils sont avec nous. C'est bon ça. Il y en a qui jouent des fois en extérieur, alors tout le monde siffle et contre eux, mais là, cette grande nuée de témoins, ce sont des gens comme il faut, positifs, qui nous supportent, qui sont avec nous, qui disent « Nous comprenons ce que vous traversez, nous avons passé par là avant vous, nous savons quel est le défi, allez-y, courez la course. » Et c'est ce que disait Paul aussi. Il disait « Ceux qui sont dans le stade courent tous pour une couronne incorruptible et nous faisons-le pour une couronne, couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Les médaillés d'or des Jeux Olympiques, certains chrétiens avaient dit même, vous savez, même au bout d'un moment, l'or des médailles ternit aussi. Mais ce qui vient de Dieu, ça ne faiblit pas, ça ne ternit pas. Amen. Amen. Levons-nous et prions et remercions le Seigneur pour sa bonté à notre égard. Dieu a formé pour nous des plans, non pas de malheur, mais des bons plans pour nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, je te prie ce matin, alors que tu appelles, eh bien que tu appelles par le Saint-Esprit chacun d'entre nous, que tu nous montres que notre vie n'est pas le fruit de hasard, nous ne sommes pas ici à nous laisser balloter au flot des circonstances, mais nous voulons au contraire que notre vie compte, qu'elle ait du poids pour l'éternité. Seigneur, je te consacre maintenant ma vie, et aussi chacun d'entre vous pouvez le faire. Seigneur, je te donne ma vie. Merci Seigneur parce que je reçois la purification par le sang de Jésus. Je reçois par le Saint-Esprit aussi les forces qui me permettront de te servir. Non pas avec l'aide de la chair, mais avec des forces spirituelles, des forces d'en haut. Merci pour le renouvellement de l'intelligence, pour la parole de Dieu qui nous nourrit tous les jours. Merci d'avoir pu passer ce moment ensemble dans ce culte. Merci pour ce que nous avons reçu. Nous avons dit que notre cœur était prêt à recevoir pour ce qui est dans notre cœur maintenant. Merci pour ce que tu vas sceller par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas permettre maintenant que ces choses soient enlevées de nous, mais que nous puissions les garder et les repasser dans notre cœur. Amen. Amen. Seigneur, je bénis aussi ton peuple ici maintenant. Seigneur, garde-nous chacun par la protection du sang de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.